Le journal vous est présenté par Camille Revel.
Bonjour à tous. La question de la radicalisation en prison revient au centre du débat. Après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'un des deux terroristes aurait nourri son projet en détention sous l'influence d'un co-détenu. C'est ce que révèlent les enregistrements de ces conversations publiées par le magazine L'Express. Alors comment lutter contre la radicalisation carcérale? Depuis quelques années, le gouvernement tâtonne sur cette question, Héloïse de Neuville.
Oui, la France, comme ses voisins européens, n'a pas encore trouvé de solutions fiables qui ont fait leurs preuves. Pourtant, depuis 3 ans, les plans de lutte contre la radicalisation se multiplient. Objectif, désendoctriner les 1500 détenus radicalisés recensés par le gouvernement dans les prisons. Et bien sûr, empêcher de futurs basculements. 15% des radicalisations aujourd'hui s'effectueraient en prison, selon le ministre de la Justice. Depuis l'année dernière, on expérimente la mise à l'écart de tous les djihadistes d'une prison dans des unités dédiées. L'essai a été fait dans 5 établissements, mais un récent rapport de la contrôleure générale des prisons en dresse un bilan très critique. La mesure n'empêcherait pas les aspirants terroristes de rentrer en contact avec les autres prisonniers. Alors d'autres outils sont en cours de test, comme des grilles d'évaluation à destination du personnel pénitentiaire. L'idée est qu'ils puissent repérer au plus vite les détenus en cours de basculement, mais les surveillants se plaignent du manque d'accompagnement et de clarté dans leur mission. Enfin, sur le plus long terme, des modules de désendoctrinement sont également à l'essai. Des associations organisent des rencontres entre détenus radicalisés et théologiens, victimes du terrorisme ou encore d'anciens djihadistes. L'idée est d'essayer peu à peu de déconstruire leurs pensées extrémistes. Ce genre de méthode devrait s'étendre à davantage de prisons à la rentrée prochaine.
Les explications d'Héloïse de Neuville. Hier soir, un homme de 19 ans, fiché S pour radicalisation, arrêté la veille de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray a été mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes. Une vidéo montrant l'un des terroristes prêté allégeance au groupe État islamique a été retrouvée sur son téléphone portable. L'ancien président et chef de file historique de la gauche brésilienne Lula, inculpé pour tentative d'entrave à la justice dans le cadre de l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras. Lula sera donc bien jugé. Il est soupçonné d'avoir voulu acheter le silence d'un ancien dirigeant du groupe pétrolier. Il s'appelle Ahmed Abba et correspondant de Radio France Internationale au Cameroun. Il est emprisonné depuis 1 an aujourd'hui. Correspondant à Maroua, chef-lieu de l'extrême nord du pays, il a été interpellé avant d'être détenu 3 mois au secret à Yaoundé, sans contact avec un avocat ou un juge. Considéré comme complice de membres de la secte Boko Haram, Ahmed Abba est officiellement poursuivi par la justice militaire pour complicité d'actes de terrorisme et non dénonciation d'actes de terrorisme. Mais Reporters sans frontières dénonce une détention arbitraire et abusive dans un dossier toujours pas examiné sur le fond, explique Cléa Kanzriber. Elle est responsable du bureau Afrique de RSF.
On ne voit pas exactement sur quoi il se fonde, puisque les articles qu'il aurait pu rédiger pour RFI, on ne voit pas au travers de ces articles qu'il y aurait des révélations dont les sources seraient des gens que le gouvernement du Cameroun aurait intérêt à connaître particulièrement. Donc probablement que ce soit un journaliste d'une grande radio française qui travaille dans le nord du pays, dans une zone où Boko Haram évolue. Voilà, il y a eu des suspicions et maintenant on a l'impression qu'il y a un enfermement dans ces suspicions plutôt que d'avouer qu'en fin de compte, il y a une erreur qui a été faite et que le dossier était vide. De toute façon, dans beaucoup de pays de la région et au Cameroun aussi, il y a énormément de méfiance envers les journalistes en général. Par exemple, il y a 3 autres journalistes qui sont également poursuivis pour des accusations similaires de non-révélation après avoir justement appelé les forces de l'ordre pour confirmer une information qu'ils avaient reçue. Et donc ils appellent pour confirmer l'information et là on leur tombe dessus en disant qu'ils recèlent de l'information sensible sans en parler aux forces de l'ordre. Donc malheureusement, c'est pas la rationalité qui gouverne à ces décisions. Je pense que c'est vraiment la peur et ils ont l'envie de verrouiller tout possiblement qui pourrait peut-être être un risque sécuritaire. Et donc mercredi le 3 août se tiendra la 6e audience du procès qui, elle encore, n'examinera pas l'affaire sur le fond. Ce que l'avocat va demander lors de cette audience, c'est de prendre date pour une session spéciale pour qu'enfin les faits de l'affaire puissent être examinés.
Des propos recueillis par Éric Chavroux. La grève des hôtesses et stewards se poursuit à Air France. Un vol sur 5 est annulé aujourd'hui. Le trafic moyen courrier est le plus touché avec près de 30% d'annulation. Un mot du ciel, le temps instable aujourd'hui avec des nuages et des averses, sauf au bord de la Méditerranée qui profite d'un beau soleil. Pour les températures, vous comptez de 21 à 27 degrés en moyenne.